Chapitre 81. Les participants se sont octroyés un temps de réflexion avant de confronter leurs recherches sur d'autres lieux capables de dissimuler un accès. Certains échangent de façon informelle, d'autres relisent leurs notes. Charles discute à voix basse avec l'archiviste. Un peu à l'écart, Vincent se dégourdit les jambes en réfléchissant à ce qu'il vient d'entendre. Des informations essentielles ont émergé, apportées par des gens qui savent de quoi ils parlent. Bien qu'ils ignorent tout de leur identité et de leur parcours, il suffit de les écouter pour comprendre que tous possèdent un savoir, une stature et bien plus d'expérience que lui. Au point qu'il en est intimidé, tous ont dans la voix la sérénité de ceux qui s'expriment en connaissance de cause. Aucune prétention, mais des buts. C'est la première fois que Vincent assiste à une réunion de ce niveau. Jusque-là, il n'a été confronté que très rarement à des esprits aussi instruits, et il n'était au mieux que leur prestataire. Cette assemblée est différente. En est-il le spectateur ou l'associé? Chacun des participants est un expert dans sa discipline. En est-il réellement un dans la sienne? Même s'il a réussi à percer le secret de l'entrée du tunnel, avec l'aide d'Henri et pas mal de chance, il n'a pas été capable de déjouer celui de la grille immergée. Attiré par l'un des globes terrestres géants, il s'en approche. Les terres émergées sont représentées en ocre, les océans en blanc cassé. L'objet est une véritable œuvre d'art, et ce qu'il symbolise donne le vertige. Tous ces continents, ce vaste monde sur lequel tant de civilisations se côtoient ou se succèdent, chacune avec son histoire, ses apogées, parfois son déclin, toujours ses mystères. C'est la planète entière que Vincent appréhende tout à coup. Il peut la faire tourner d'un seul doigt. Bien que la sphère soit d'une très belle taille, il pourrait l'enserrer entre ses bras, ou tel Atlas la porter sur ses épaules. La cartographie de ce globe ne date que de quelques décennies, et pourtant elle est déjà dépassée. En le remarquant, Vincent est perturbé. La multiplication des voyages a rendu obsolète nombre des tracés tenus pour véridiques lors de sa fabrication. Le globe exposé dans l'autre angle est bien plus ancien, et c'est encore plus frappant. Devant ces mers d'un bleu délavé et ces contours de continents fantaisistes, même quelqu'un doté d'une instruction aussi générale que Cavell est aujourd'hui en mesure de pointer d'innombrables erreurs qui furent autrefois présentées comme des vérités par les savants et les explorateurs les plus éminents de leur temps. Dans son dos s'élève la voix de la géographe. Notre Terre vous laisse perplexe? Pour le moins. Entre ces deux versions, tout ce que l'humanité a découvert de la planète saute aux yeux. Le lieu où nous nous trouvons a précisément été créé dans ce but. C'est ici qu'étaient vérifiées et répertoriées les données rapportées lors des grandes expéditions maritimes, voilà plus de deux siècles. Cornelli, le moine cartographe italien qui a réalisé ce globe en 1688, était alors parfaitement instruit des connaissances scientifiques. Pour le profane que je suis, il est surprenant de mesurer à l'œil nu tout ce qu'ignoraient nos anciens. C'est flagrant, même par rapport au globe le plus récent. Que de progrès accomplis. La femme esquisse un sourire. Leur soif d'apprendre était la même que la nôtre. Ils ne bénéficiaient simplement pas des mêmes moyens. Chaque jour, la science et l'expérience nous en offrent de nouveaux. Je crois même que le phénomène s'amplifie et s'accélère. Nous comprenons de mieux en mieux notre monde. Nous pouvons désormais tous faire l'étonnant constat qu'un enfant d'aujourd'hui en sait davantage qu'un savant des temps reculés. Vincent promène son doigt sur les côtes erronées du continent sud-américain. Je n'en avais jamais pris conscience. Gardez-vous d'en tirer des conclusions hâtives. Nos enfants ne sont pas surdoués, ils bénéficient simplement de l'héritage de ceux qui les ont précédés. Ceux qui nous ont ouvert la voie ne peuvent pas être considérés comme des sots. Ils ont pris des risques, avancé dans l'inconnu, révélé les découvertes sur lesquelles nous nous appuyons pour aller plus loin. Nos ancêtres nous lèguent les résultats de leurs audaces, de leurs échecs, de leur insatiable curiosité. Ils sont ceux qui ont osé tenter. Vincent est aussi séduit par le propos que par l'intensité de la conviction de cette femme étonnante. Ce que vous venez de comprendre en regardant ces globes terrestres J'en ai moi-même pris conscience en découvrant la bibliothèque impériale, l'ancienne bibliothèque royale de la rue de Richelieu. J'étais encore une toute jeune fille. J'accompagnais mon père qui devait consulter des archives. Pendant qu'il s'affairait, je me suis aventuré dans les allées. Tout était si grand, si haut. Elle s'anime, paraît revivre son souvenir. J'ai été subjugué par le lieu et ce qu'il contenait, philosophie, biologie, mathématiques, astronomie, chimie. C'est sans doute là qu'a germé mon goût pour la connaissance. Tout ce savoir concentré sous un même toit, ces milliers de vies consacrées à étudier, à chercher, à comprendre. J'en ai été bouleversé. Je suis ressorti assoiffé d'infini, affamé d'apprendre. Son regard revient au présent en croisant celui de Vincent. Une question cependant ne m'a plus quitté depuis, au point de m'habiter. Que faisons-nous de tout ce que nous avons appris? À quoi nous servent ces savoirs et ces moyens développés de plus en plus vite? Sommes-nous meilleurs pour autant, ou seulement plus gâtés? Ne gaspillons-nous pas les chances qui nous sont offertes, car malgré les connaissances qui s'accumulent, il est un héritage que nous ne parvenons pas à dépasser, notre nature animale. Nous gardons encore nos réflexes de bêtes, ces peurs instinctives qui nous empêchent de voir grand et de nous élever. Les anciens ont rêvé d'idéaux que nous oublions, que nous avilissons en les rabaissant au rang de lois ou de dogmes vidés de leur signification profonde. Les voies du commerce se multiplient plus vite que celles de la sagesse. Nous perdons de vue notre véritable intérêt et le chemin parcouru. Nous consommons le quotidien sans plus regarder au loin. Lorsque je vois les peuples se contenter de distractions, je prends peur, car ce qui fut conquis peut se perdre. Et pourtant, il faut garder la flamme et l'esprit si nous voulons survivre. Elle désigne le globe ancien à la cartographie approximative. Que penseront nos descendants de nos civilisations? Comment ceux qui viendront après nous jugeront-ils nos actes? Le contour qu'ils révéleront de notre mentalité sera-t-il aussi primitif que ces côtes fantasmées qui ne correspondent à rien? Sans se douter de ce qui l'interrompt, Addison apparaît à leur côté. « Je vous prie de m'excuser, mais notre archiviste vient de me confier un élément qui me paraît de la plus haute importance. » Charles fait signe à l'archiviste de les rejoindre. « S'il vous plaît, répétez-leur ce que vous venez de m'annoncer. » « Nous avons déjà établi qu'avant la construction de la maison de Nicolas Flamel, une tombe se trouvait sur le même emplacement et qu'elle dissimulait alors sans doute l'entrée du tunnel. » Vincent confirme d'un hochement de la tête. L'homme poursuit. « Nous avons logiquement dirigé nos recherches vers les bâtiments datant de la même période, aux alentours du XIIIe siècle, susceptibles d'avoir été liés aux croisades, aux ordres religieux ou de chevalerie. Mes recherches ont donné tant de solutions possibles qu'aucune ne se détache, mais mon collègue théologien m'a orienté sur un autre domaine. Dans les archives, j'ai découvert l'existence d'une autre tombe, datant de la même époque que celle d'Enguerrand de Tardenay, à une distance qui pourrait la relier avec le tracé supposé du tunnel. « Une sépulture templière ? » interroge Vincent. « Mieux que cela, elle était située dans les sous-bassements même de la tour du temple. » La tour fortifiée qui dominait l'enclos des Templiers, s'étonne Cavel, celle-là même, la pièce maîtresse du vaste domaine qu'il possédait. Addison et Vincent échangent un regard. L'archiviste complète. Cela pose tout de même un sérieux problème. L'enclos du temple a été rasé et la tour démolie. Il n'en reste rien. Si cette sépulture s'y trouvait, elle est aujourd'hui rayée de la carte. À peine découvrons-nous une lueur d'espoir que nous la voyons déjà s'éteindre. Voilà qui me désole. Vincent se fige avant de s'exclamer comme un illuminé. Bon sang ! Addison reconnaît là l'exaltation qui l'avait tant inquiété lorsque Cavel était revenu à lui. Que vous arrive-t-il, mon ami ? Vincent sort les carnets de sa poche et les feuillette avec fébrilité.
J'ai lu quelque chose sur cette démolition dans les notes de Robert Houdin, j'en suis certain. Il parle d'une étrange affaire autour de cette fameuse tour du temple.